tu le disais, toi tu lisais beaucoup de bandes dessinées, tu l'as précisé, tu es belge, tu as grandi avec une culture bande dessinée. Justement, toi tu lisais quoi et qu'est-ce qui a pu te donner envie, pas forcément justement à l'adolescence, c'était peut-être déjà avant, mais qu'est-ce que toi tu as lu qui t'a donné envie de raconter des histoires par la bande dessinée?
Bonjour. Moi j'ai lu, comme tout bon petit belge, j'ai lu Spirou, Tintin. J'étais un énorme fan de Gaston.
D'ailleurs, on
ne
surnommait pas un petit peu Gaston parce que
c'était
un petit peu maladroit.
Ouais, c'est tout, comment tu sais ça? on m'appelait Gaston, ou on m'appelait Professeur Tournesol parce que j'étais hyper distrait, je faisais que des conneries quand j'étais enfant. J'adorais Pezzi. Alors maintenant j'ai un enfant et je lui lis Pezzi. Il a 3 ans et demi, il adore Pezzi. Et je me rends compte avec le recul que Pezzi, c'est hyper débile en fait. Ça n'a aucun sens, à part qu'il mange tout le temps des crêpes et donc c'est chouette. Je lisais beaucoup de BD enfant. Et en fait, ma mère, elle était prof de français, c'est une grosse lectrice. Et elle allait tout le temps en librairie. Elle m'emmenait tout le temps avec. Et donc, je me suis retrouvé à traîner en librairie tous les week-ends. J'allais dans le bac BD, j'allais chercher des trucs. Et du coup, assez tôt, j'ai découvert Calvin et Hobbes, qui était aussi un gros... c'était un gros coup de poing de lire un truc en noir et blanc. Et c'est une des premières BD où je me rappelle de vraiment rire, rire à haute voix, seul dans ma chambre. J'ai lu beaucoup de choses.
Et ça, c'est en tant que lecteur, mais à quel moment est-ce qu'il y a eu, s'il y a eu, un déclic qui t'a fait te dire que toi aussi, tu pourrais raconter en bande dessinée des histoires?
Je pense comme tous les gamins, j'ai fait de la BD tout le temps, quoi. J'étais un très grand fan des Tortues Ninja, et donc je faisais des histoires des Tortues Ninja en permanence. Et j'avais aussi je dessinais des bonhommes. Sans contour de tête, comme ça, juste une bouche, un rond, des cheveux qui volaient comme ça et des yeux. Et j'avais dessiné une série d'essais des gamins, ils avaient un groupe de rock. Parce que, en plus d'aimer la bande dessinée, j'aimais beaucoup, j'étais hyper fan des Guns N' Roses et tout ça, j'aimais bien le hard rock, j'avais un grand frère. Je faisais que des histoires, je dessinais beaucoup comme ça. Et je pense, vers 12 ans, j'ai commencé un peu à me détacher un peu de la bande dessinée, de tout ça, de la lecture, parce que je faisais du skate, parce que je commençais à m'intéresser aux filles, parce que plein de choses. Et j'y suis revenu avec le manga, vers 15-16 ans, j'ai découvert le manga et j'ai aussi découvert... je lisais, comme tous les ados, de l'heroic fantasy un peu débile, mais aussi il y a une petite amie de mon frère qui a oublié un bouquin de Guy Delisle dans la voiture de mon frère. Et donc j'ai lu Shenzhen à 16-17 ans. Et ça, c'est vraiment un des trucs où je me suis dit, ah waouh, en fait, la BD, c'est pas que ce qu'il y a à la maison. À la maison, ma mère, elle avait tous les Glénat, tous les trucs un peu historiques, réalistes et tout ça. Et donc moi, je lisais ça parce qu'il y avait plein de finus et tout ça. Mais de se rendre compte qu'en fait, la bande dessinée adulte, ça pouvait être autre chose. Donc c'est la période aussi où j'ai lu Mauss, où j'ai lu tous des récits comme ça qui sont hyper forts et qui sont dessinés avec très peu de choses et qui correspondent un peu à mes moyens, quoi.
C'est ça qui est important aussi, c'est justement le rapport au dessin. C'est de se dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être virtuose, en tout cas dans le dessin, pour raconter des histoires qui sont complètement prenantes et auxquelles on croit et qui racontent quelque chose. Ça a été aussi ça qui a eu un effet sur toi.
Oui, en fait, moi je me suis rendu compte assez rapidement. J'ai fait l'équivalent du bac en Belgique, quoi. À 18 ans, je devais choisir des études. Je me suis inscrit dans des écoles d'art. J'ai raté tous les examens d'entrée parce que j'avais aucun niveau. J'avais jamais eu de cours de dessin. Et il y avait une école qui s'appelle Saint-Luc, qui est une école assez connue à Bruxelles. Et à l'époque, ils avaient ce qu'ils appelaient une année préparatoire. C'était une année surtout avec des cours théoriques où on faisait un peu de tout. On faisait un peu d'illustration, un peu de graphisme, un peu de mode, on touchait un peu à tout. Mais c'était une année avec beaucoup de cours théoriques et on commençait à 180 et ils écrémaient. Et il y avait 20-30 élèves qui restaient à la fin et tu pouvais rentrer dans n'importe quelle section. Tu avais un espèce de passe-droit pour rentrer dans l'école. Et donc j'ai fait ça et grâce à ça, j'ai pu rentrer en bande dessinée. Et j'avais pas du tout, pas de niveau, quoi. Tout le monde dessinait, tout le monde avait fait des études avant ou avait fait des écoles artistiques ou avait été en académie. Ils avaient tous déjà vu un nu et ils savaient comment dessiner. Moi, je faisais n'importe quoi, j'arrivais pas. J'ai dessiné les 6 premiers mois à l'école, j'ai dessiné des cours de nu. Et la prof m'a dit, mais je comprends pas pourquoi tu l'es. Je dessinais tout en miroir. quand je dessinais le nu, si la tête est là, je la dessinais là. Et ça m'a pris super longtemps à comprendre. Bon, je sais pas pourquoi je faisais ça, mais donc, enfin voilà, je faisais toutes des erreurs hyper bizarres. Donc j'étais pas. Merde, j'ai cassé le truc. J'étais. Ah. Désolé, j'avais pas cassé un trou. Je me suis dit que j'allais le mettre là pour le protéger. Bon, hop, ça marche toujours. Ok. Alors. J'avais vraiment pas assez peu de moyens en dessin, mais je me suis assez vite rendu compte qu'en fait on pouvait raconter des histoires, peu importe les moyens, quoi. Qu'il y avait des gens, on parlait d'un gars qui s'appelle David Libens, qui est un auteur bruxellois, qui dessinait dans le métro, il avait un dessin tout pourri, ses planches elles étaient pleines de Tipex et tout ça, de Blanco. Quand j'ai découvert des gens comme ça, je me suis dit, ah mais en fait... Voilà, on peut raconter des histoires avec rien, quoi. Parondo, il arrive à raconter des histoires. Enfin, il y avait plein d'auteurs comme ça qui, avec trois fois rien, arrivaient à raconter des choses fortes. Et du coup, moi, je me suis concentré sur le fait de raconter des histoires et j'ai évité tout ce que je dessinais, tout ce que je savais pas dessiner, je l'évacuais. Donc, au début, j'achetais plein de magazines et je collais dans les cases tout ce que je savais pas dessiner, je le collais. Donc les voitures, les maisons, même la perspective. Je savais pas faire une table en perspective, donc quand j'avais besoin de dessiner une table, je découpais une table et je dessinais les gens dessus et tout ça. Donc je faisais un mélange de collage et de dessin. Mais c'était hyper fastidieux. Je passais mon temps dans des magazines, c'était horrible. J'avais pas d'ordinateur, donc j'allais à la photocopieuse. Enfin, c'était horrible. Et donc j'ai fait ça pendant 6 mois, 1 an. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, mais en fait, je peux pas continuer comme ça. Et c'est l'époque aussi où j'ai découvert Johan Svar, qui faisait ses carnets à l'association. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il faisait des carnets autobiographiques où il racontait tout et n'importe quoi. C'était vraiment le pire et le meilleur. Mais en même temps, il dessinait ça aux toilettes, dans le train, en voiture, n'importe où. Il y avait des tâches, il y avait... C'était hyper libre comme ça, et plein d'erreurs, mais hyper vivant. Et donc je me dis, ah, mais en fait, je dois pas dessiner, je dois pas être juste, c'est pas grave. En fait, si on, du moment que les gens comprennent que c'est une table, ça doit pas vraiment être une table, ça doit juste donner l'image d'une table. Et donc ça m'a vachement libéré. J'ai commencé à être un peu plus à l'aise, à accepter mes défauts en bande dessinée. Et aller mettre sur la page, peu importe quoi.
Et du coup, à quoi ça tient l'efficacité sans justement ce que tu disais de la justesse du trait ou des détails? C'est justement sur le rythme, sur le découpage, sur plein d'autres choses qui font que, bah, qu'on est complètement pris et qu'on se pose pas la question de effectivement savoir s'il y a pas de fond, si le fond est blanc alors qu'il y a censé avoir un décor derrière. On s'en fiche complètement parce que c'est l'histoire qui compte. Mais ça, ouais, ça tient à quoi? C'est vraiment le jeu du découpage.
Mais en fait, moi je crois que un de mes mon super handicap, mon gros défaut quand je suis rentré dans la bande dessinée, c'est que je savais pas dessiner. Et en fait, bizarrement, c'est devenu mon truc, c'est devenu ma force la plus forte en bande dessinée, c'est que je ne sais pas dessiner, quoi. Et donc, je suis obligé de trouver plein de moyens autres pour raconter une histoire. Et en fait, pendant longtemps, je disais à tout le monde que je racontais des histoires, pas que je disais pas que je dessinais, quoi. Je disais, ah non, mais moi, je raconte. Je me sers du dessin comme véhicule, mais je raconte des histoires, je ne suis pas dessinateur. Donc maintenant, ça fait quand même 15 ans que je fais de la BD, donc je peux arrêter de dire ça, mais il y a un peu de ça, quoi. J'étais obligé de trouver des systèmes pour raconter une histoire avec mes faiblesses et c'est devenu j'ai été obligé d'aller à quelque chose d'hyper naïf, d'aller au plus simple, de simplifier un maximum mon dessin, de simplifier un maximum l'utilisation des décors. Donc j'utilise assez peu de décors quand j'en ai pas besoin, j'essaie de vraiment mettre que l'essentiel sur ma page et au début c'était par nécessité et c'est devenu un choix. Et donc voilà, du coup, ma faiblesse, je pense, elle est devenue quelque chose qui fait que mon boulot fonctionne aujourd'hui, en fait.
Et qui n'empêche aucun sujet, parce que c'est aussi quelque chose qui est important de dire par rapport au fait de s'adresser aux adolescents, c'est que quand tu t'es dit que tu allais écrire pour un public plus jeune, ce qui était clair, c'est que tu ne voulais pas faire de compromis, en fait, il n'était pas du tout question de se censurer sous prétexte qu'on s'adresse à des plus jeunes et que voilà, dans tes albums, par exemple dans Rignal, il est question de harcèlement, il y a beaucoup de thématiques qui sont, pour certains qui pourraient se dire c'est dur, mais en fait, c'est ça ton parti pris, c'est de se dire voilà, à travers ces histoires, je ne vais rien m'interdire et je vais parler de ce qui fait l'adolescence, en fait.
Ouais, en fait, moi, j'ai toujours trouvé ça très, très bizarre, sous prétexte que c'est dessiné, la bande dessinée, plein de sujets sont tabous, quoi. Enfin, pas en bande dessinée adulte, et encore en bande dessinée adulte, je pense qu'il y a quand même un peu des tabous, mais en bande dessinée jeunesse, il y a plein de choses tabous, on ne peut pas parler de sexualité, on ne peut pas parler de drogue, alors que tous les ados lisent... Enfin, voilà, moi j'ai lu... J'ai lu L'Herbe Bleue, j'ai lu Moi, Christiane F, tous des romans comme ça qui sont hyper coup de poing dans la gueule. On parle de drogue, on parle de prostitution et tout ça. Et ça, on peut le lire ado, on peut le lire à 14 ans. Mais lire une BD où il y a un gamin qui a une fellation, ça, on ne peut pas lire. Quoi. Ça n'est pas, on n'a pas le droit de montrer ça. Et donc, ouais, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. J'essaie du coup de raconter des histoires où je parle à des ados comme je parlerais, comme on discuterait ensemble. Quoi. J'essaie J'essaie de pas avoir de tabou et j'essaie de parler librement de plein de choses, quoi. Après, je sais, c'est difficile de savoir comment eux le réceptionnent. Parfois, je pense que...
Parce que forcément, quand quelqu'un s'adresse à toi sans te prendre pour ce que t'es pas, c'est toujours plus agréable, enfin, ouais. J'imagine.
Oui, mais bon, après, c'est, tu vois, par exemple, là, je suis dans... Pour le moment, je fais des pages dans Tcho, le magazine de Glénat, là. Ils m'ont demandé de faire des pages. Et moi, j'étais un peu surpris parce que... C'est un peu la... Je sais pas si les gens lisent Titeuf et tout ça, c'est un peu ça, la grosse déconne, tout le monde rigole, c'est poète, prout et tout ça. Et moi, c'est pas trop mon truc, et donc je leur ai proposé un récit où c'est un enfant qui doit avoir 14 ans, qui s'appelle Axel, et qui est homosexuel et qui se drague à la maison, il s'habille en femme à la maison en cachette, il se maquille et tout ça, il se fait des vêtements. Et il a un grand frère, et son grand frère, il a plutôt 16 ans, et c'est vraiment la tête brûlée. Il se filme avec ses potes à péter la gueule à des gens en rue avec les téléphones pour mettre ça sur YouTube et des choses comme ça. Donc ils sont c'est deux gamins hyper différents, mais du coup je publie ça dans le show, et c'est moi quand je les vois, je me dis, mais pourquoi ils acceptent ça? C'est tout le monde, c'est que des histoires un peu douces et rigolotes. Et moi, je suis en train de raconter un truc horrible. Non, j'ai pas de retour. Je sais pas. Donc c'est bizarre. J'envoie ces pages et mais bon, voilà. Mais après, je pense que c'est important de le faire, et j'ai l'impression que ça change. Ça change beaucoup ces dernières années. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'au début, où j'ai commencé à faire ça, peu de gens le faisaient, quoi, et qu'alors qu'il y a plein de. Enfin, on parlait du manga tout à l'heure. Au Japon, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on peut parler. Tu peux avoir une série ado avec un personnage qui est transsexuel. Enfin, tu peux avoir un truc. Et en France, en Belgique, c'est encore hyper. C'est dur de parler de tous ces trucs-là. Voilà. Donc, je trouve que c'est important de le faire.
Et là, tu parlais de cette série où c'est deux frères. C'est aussi quelque chose qui est commun à beaucoup de tes albums. C'est justement d'accentuer, enfin, de mettre toute l'attention sur les relations humaines, que ce soit familiales, beaucoup familiales, mais aussi plus globalement. C'est vraiment ça qui t'intéresse de creuser justement dans tes histoires, c'est tout ce relationnel, tous nos rapports aux autres.
Ouais, alors du coup, en fait, donc oui, moi je fais, c'est vrai que, donc je fais toujours un peu des bandes dessinées, mais je le fais pas vraiment exprès, c'est juste, c'est juste que ça vient comme ça, mais je fais toujours c'est beaucoup sur le rapport entre les personnages, quoi, sur ce qu'ils vivent entre eux, quoi. Mais par exemple, quand j'ai fait Bâtard, qui est la bande dessinée dont tu parlais tout à l'heure, qui est plutôt un road movie un peu musclé comme ça, je m'étais dit, bon, tout le monde dans mes copains de la bande dessinée, tout le monde se fout un peu de ma gueule parce que je fais toujours des BD avec des ados qui tombent amoureux, qui sont c'est hyper fleur bleue, donc on dit toujours, ah, t'es un peu le John Hughes de la BD, et donc je m'étais dit, je vais casser cette image, je vais faire un truc hyper violent avec de la violence gratuite, ce sera je vais complètement changer ce que je fais. Et donc j'ai commencé à faire Bâtard, qui est un récit avec une mère et son fils qui sont en cavale d'un braquage. Et donc il y a des courses-poursuites, il y a des tirs au fusil et tout ça.
Mais
en fait, je me suis rendu compte assez loin dans le bouquin que j'étais en train de faire un livre sur la relation entre une mère et son fils et comment. Pourquoi une mère entraînerait son fils là-dedans et tout ça. Et qu'en fait, le bouquin, il est. Les scènes d'action, c'est vraiment une excuse et c'est pas du tout le centre du livre, quoi. Mais alors que j'ai vraiment essayé, mais je suis vraiment tombé dans mes ornières en faisant je suis vraiment en train de faire un truc de violence gratuite. Ah non, en fait j'ai fait 100 pages sur, sur une mère et son fils. Donc voilà, donc je ne sais pas trop y échapper, je crois.
Le changement quand même, c'est que c'est justement une mère. Je crois que justement, jusqu'à présent, c'était beaucoup des relations avec le père. Et d'ailleurs, c'est une réflexion qu'une fois, tu as fait ta mère en disant, mais pourquoi c'est toujours le père qu'il y a dans les histoires,
ouais.
Non ?
Ouais, mais oui, en fait, bon après, je ne sais pas si je vais raconter ma vie. Je suis désolé. Je vais le mettre dans ma poche, je vais l'accrocher. Non, mais sans rentrer dans les détails, mais non, mais c'est vrai que moi j'ai grandi. Mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune, et c'est vraiment, j'ai vraiment grandi avec ma mère. C'est vraiment ma mère qui nous a. On est trois frères, et c'est vraiment ma mère qui nous a éduqués. Mon père, il est assez vite parti en France vivre ailleurs, et du coup, moi, je pense que j'ai un truc. Voilà, comme tous les enfants et tous les adultes qui ont eu des trucs un peu compliqués dans leur relation avec leur père, j'ai un truc hyper... quand je vois un film où il y a un père qui est gentil, je tchoule tout du long. Là. Je suis hyper sensible par rapport à ce genre de trucs. Et donc, inconsciemment, je faisais beaucoup de bandes dessinées sur des... je ne m'en rendais pas compte, sur des pères. C'était toujours le... Enfin, voilà. Donc, ma mère était hyper vexée parce que c'est elle qui passait tout ce temps... avec nous, à tout faire pour nous, et je racontais des histoires de père, quoi. Et donc, mais voilà, mais je me suis rattrapé, j'ai fait pas mal de bouquins j'ai fait d'autres bouquins avec des mamans, donc ça va. Elle m'a pardonné.
Mais justement, ça, même si tu dis que l'idée, c'est d'essayer, pourquoi pas d'en sortir, même si ça revient, mais de toute façon, c'est infini à creuser, à analyser les rapports humains, et c'est quelque chose qui j'imagine est passionnant en tant qu'auteur, mais aussi en tant que lecteur, parce que par définition, on rencontrera jamais toutes les personnes qui existent et on connaît pas les rapports des uns avec les autres, donc on cherche ça aussi dans nos lectures.
Ouais, mais après, je crois qu'on veut toujours faire ce qu'on sait pas faire. Moi, je me dis toujours, j'aimerais bien le prochain projet que je veux faire, j'aimerais bien faire un truc de science-fiction. Et en me disant, j'ai fait un truc vraiment en science-fiction et tous les trucs que je commence. Chaque fois, je me dis, mais en fait, je suis en train de faire exactement ce que je fais d'habitude. Je suis en train de faire un truc sur des gens, c'est des huis clos avec des gens. C'est juste qu'ils sont dans une navette au lieu de dans une maison dans la campagne en Ardèche. Mais sinon, c'est exactement la même chose, quoi. Donc voilà, du coup, il y a un truc... je pense que moi, j'essaye d'échapper... quand j'ai fait Stig et Tilde, qui est la série jeunesse, là, je me suis dit, je vais faire une
série... C'est pas huis clos, c'est...
Oui, mais je me suis dit, je vais faire une série... hyper fantastique, je comptais, mon idée de base c'était il y aura des elfes et tout quoi, ça va être presque de l'heroic fantasy, et en fait c'est hyper centré sur la relation de ces deux jumeaux, dans le premier tome il y a un fantôme mais c'est pas non plus, donc là j'ai fait trois bouquins sur cette série que j'ai commencé en me disant je vais faire un truc hyper fantastique, et en fait... Oui, il y a un tout petit peu, quoi. Mais en fait, le bouquin, c'est vraiment sur la relation entre ces personnages. Quoi.
Justement, pour rappeler ce livre, donc c'est Stig et Tilde qui sont des jumeaux qui vont passer leur cul-cul. Ouais. C'est le rite de passage où l'idée, c'est d'aller passer, se débrouiller seul sans les adultes sur une île. Et ils vont rejoindre une île où sont censés être d'autres adolescents. Et en fait, ils vont débarquer sur la mauvaise île. Est-ce que tu pourrais revenir sur justement l'origine de cette histoire, l'idée de ce rite de passage, un truc qui te travaillait depuis longtemps, l'idée de travailler sur ce moment-là où on passe de l'enfance ou de l'adolescence à l'adulte.
Ouais. Mais du coup, donc moi j'ai fait beaucoup de bouquins qui parlent des ados et qui parlent aussi de ce moment. Moi j'ai l'impression qu'il y a un moment qui est super, des trucs qui m'intéressent dans l'adolescence, c'est cette espèce de moment où on est encore un enfant, on est pas encore un adulte, mais on est un peu entre tous les mondes comme ça. On n'est pas encore un ado assumé, mais on a encore des envies d'enfant, mais on a des envies d'ado. Il y a une espèce de période qui est un peu floue, qui pour les garçons peut durer assez longtemps, et en général d'ailleurs à 14 ans peut encore être un peu dans cette phase. Et du coup, je trouve que c'est un moment qui est assez intéressant, et il y a plein de cultures où on marque ce moment en disant, mais voilà, il y a un moment où tu passes de l'autre côté, et il y a plein de cultures où il y a des rites pour passer de l'enfance à l'âge adulte, quoi. Dire, bon, mais voilà, maintenant, tu quittes l'enfance en changeant de nom, en faisant des combats, en faisant des... il y a plein de choses différentes. Et du coup, ça m'a toujours... titillé. C'est des choses que... Ouais, voilà. C'est quelque chose qu'on n'a plus vraiment. Alors, vous, en France, vous avez quand même le... Parce que ça marche comment, le système scolaire en France? Vous passez quand même du... Il y a le collège. Non, le collège, c'est à quel âge?
Collège, lycée,
Collège, oui, ça vous passait du collège au lycée, quoi. En Belgique, on reste dans le même truc de 12 à 18 ans. Donc il y a moins, c'est pas très marqué, quoi, ce passage. Donc voilà, du coup, je trouve que c'est un moment qui existe plus vraiment, il n'y a plus vraiment de marqueur de ce moment-là. Et donc voilà, du coup, je me suis intéressé à ça.
Et pourquoi est-ce que tu as choisi des jumeaux pour raconter cette histoire? Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'était parce que c'était une figure qui t'intéressait?
Alors, il y a quelque chose de quelque chose d'hyper pragmatique. Je voulais faire un récit avec deux ados qui se perdent sur une île, qui ont 14 ans et qui doivent faire un rite de passage. Et je voulais qu'ils aient le même âge, qu'ils partent ensemble sur un bateau. Et donc, j'aurais pu dire que c'était deux copains, mais ça avait plus de sens que ce soit un frère et une sœur. Et puis aussi, je trouvais ça intéressant d'avoir cette espèce de rapport de deux personnes qui sont identiques mais différentes, qui sont fusionnelles mais qui se rejettent. Enfin, il y a un truc qui est toujours un peu... ouais, qui est assez intriguant, des jumeaux. Enfin, moi, j'ai pas de frères jumeaux, mais j'ai eu plusieurs fois des copains qui étaient jumeaux et qui s'échangent, qui changent de personnalité pour les examens. Il y a plein de trucs où il y en a un qui passe les oraux de l'autre et des trucs comme ça. Enfin, voilà, ça m'a toujours un peu fasciné, ce truc-là. Du coup, c'était l'occasion.
Et comment est-ce que tu as choisi le lieu où tu allais mettre tes personnages? Parce que c'est jamais nommé. Le culcute, tu t'es inventé, mais c'est un mot qui veut vraiment dire quelque chose.
Ouais, je sais plus ce que ça veut dire.
En finlandais.
Ouais, ça veut dire adulte ou ça veut dire un truc comme ça.
Et du coup, c'est ça, c'est tu voulais que cette histoire se passe plutôt dans ces pays-là?
Ouais, pour moi, ça se passe dans un espèce de pays nordique fictif. Mais en fait, j'avais lu un bouquin. Ah, zut, évidemment, j'ai plus retrouvé le nom. J'avais lu un bouquin de David Van qui s'appelle Turbulence, je crois. C'est un bouquin sur un mari et sa femme qui décident d'aller vivre sur une île. Ils sont à la retraite. Et alors, je ne sais plus très bien comment ça marche, mais en gros, ils vont sur une île. Le mari est censé avoir tout bien préparé. C'est mal préparé. Ils ont quand même un gros trajet en bateau à faire entre l'île et le continent. Ça dérape. Et je crois que la femme le tue à l'arbalète à un moment, pensant que c'est un cerf ou un truc comme ça. C'est un truc qui commence un peu voilà, on sait, mais on va vivre sur une île, profiter un peu de la vie après avoir bossé comme des chiens. Et en fait, ça dérape hyper vite et ça devient hyper sanglant. Et du coup, cette idée d'île était un peu venue de ce roman. Je me disais, c'est vraiment... Non, mais il y a un arc à flèche quand même. Mais voilà, ce côté d'être... En fait, le fait d'être sur une île, ça accentue vraiment l'isolation, quoi. C'est pas juste que t'es perdu dans les bois ou que t'es sur une île. Donc, il y a rien qui peut... Il n'y a rien qui peut te sauver, quoi. Donc, voilà.
Et dès le départ, tu avais l'idée que ce serait une série en trois tomes, parce que tu fais beaucoup d'albums qui sont justement one-shot. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est parce que justement la pagination aurait été trop grosse? Est-ce que c'est...
En fait, moi, je veux toujours faire des trucs que je ne sais pas faire. Donc, en fait, en général, quand je commence un bouquin, je me dis toujours... par exemple, quand j'ai commencé Bâtard, il y a plein de courses-poursuites. Je me suis dit, en fait, je ne sais pas dessiner des scènes d'action et je ne sais pas dessiner des voitures. Donc, je vais faire un truc dans des voitures avec des scènes d'action. Et là, pour Stick et Till, en fait, moi, j'ai toujours dit jamais je ferai de série. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer différents personnages, de changer à chaque fois. Et donc, je me suis dit, mais en fait, ça fait des années que je dis ça.
Il
est temps que je fasse une série, en fait, que j'essaye. Et donc, j'étais voir Sarbacane, qui est l'éditeur, avec qui je travaille depuis assez longtemps, donc on s'entend assez bien. Et je lui ai dit, voilà, je vais faire ça. Ça va être en trois volumes. Et puis, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je suis là. Partir sur une île, et puis après il bouge d'île, et puis il me fait ok, c'est bon. Mais donc voilà, j'avais aucune idée. Dès le début, j'ai décidé que ce serait trois, mais j'avais pas du tout écrit la série, quoi. En fait, du coup, ouais, c'est peut-être. Moi, j'écris pas du tout, en fait. Ça a l'air ce que je fais, les gens me disent toujours ah, c'est très écrit, mais c'est pas le jeu. Quand j'écris Bâtard, qui est un récit qui fait 150 pages, quelque chose comme ça. En fait, je l'écris 10 pages par 10 pages, donc je le prépublie en petit fanzine, donc je faisais des photocopies, je l'agrafais. Dès que j'avais 10 pages de fait, je les photocopiais, je les agrafais et je les vendais sur mon site. Et donc j'ai fait le numéro 1. C'était un gamin, c'était une dame qui fait une file dans un fast-food. Il y a quelqu'un dans la file qui fait « Ah, Salut, comment ça va? Ça fait super longtemps que je t'ai pas vu. Et elle est mal à l'aise, elle s'en va, elle sort de la file, elle dit vous trompez monsieur, c'est pas moi. Elle rentre dans un motel, elle dit il faut qu'on y aille, on m'a reconnu. Elle est avec un gamin, le gamin charge la voiture pendant qu'elle va payer. Et on voit que la voiture est remplie de... Enfin, il a des sacs remplis de billets, quoi. Donc ça, c'était mes 10 premières pages. Et je me suis dit, c'est un super début de récit. Je l'ai imprimé, je l'ai mis en vente sur mon site. Et j'ai dit, abonnez-vous, 10 numéros, un par mois.
Ça veut dire que quand on est à ces 10 pages, t'as aucune idée
voilà,
de
ouais.
ce qu'il y a après.
De ce qu'il y a après, quoi.
Juste ces
c'est parti,
pages.
Quoi. Okay. Et du coup, alors je suis obligé de, vu que des gens s'abonnent et que je leur ai dit qu'ils allaient recevoir un truc dans leur boîte aux lettres, je suis obligé d'avancer et de trouver des solutions pour faire avancer le récit, quoi. Et donc voilà, du coup, je l'ai écrit comme ça et c'est entre autres pour ça que pendant 80 pages, 90 pages, j'étais persuadé que j'étais en train de faire un récit d'action musclée et que je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça vers ça que j'allais, quoi. Et c'est assez tard dans le récit que je sais quelle est la fin et que je me dirige vers la fin, quoi.
Et c'est toujours comme ça? T'as jamais été fin? Ça t'est jamais arrivé?
Mais pour tous les pour tous les bouquins romans graphiques, quoi, c'est toujours comme ça. Ouais. Après, s'il y aura un bouquin de 130 pages, ouais, quand je suis à page 4, ouais, vers 80-90, à un moment je me dis oula, il faut que je retombe sur mes pieds. À un moment, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est horrible. Et du coup, à ce moment-là, je trouve une solution et je me dirige. Voilà, je m'arrange pour trouver le chemin, quoi.
Mais quand tu dis que t'écris pas, du coup, même sur ces 10 pages, est-ce que quand même...
Ah non, du coup, j'écris les 10 pages.
T'écris par contre, tu passes oui. pas directement au...
Non, ça, j'écris 10 pages, mais j'écris que 10... Donc, je réfléchis en séquence. Je réfléchis en scène et pas en récit, quoi. Donc, je réfléchis sur ma scène et même... du coup, quand je fais des... comme ça, en petits épisodes pour Ringel... Quand j'ai voulu faire le livre, j'ai dû redessiner des pages entières parce qu'en fait, il y avait plein de scènes qui n'étaient pas du tout connectées. Pour moi, c'était un récit complet. Quand je relisais le récit, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de moments où le lecteur, il ne sait pas du tout de quoi je parle. Moi, j'ai fait le lien dans ma tête parce qu'il y a 3 semaines qui sont passées où j'y ai réfléchi. Mais en fait, il manque une journée complète où il manque... Et j'ai aussi, Aurignal, le premier numéro, c'était un gamin qui court dans les bois. Qui a peur de quelque chose, il a tellement peur, il court tellement vite, il fait froid et tout ça, il n'est pas bien habillé, on voit qu'il transpire, il vomit ses tripes dans la neige, il se lève, il arrive sur une route et il est éclairé par des phares de voiture, et ça c'était mon premier numéro. Et donc j'avais fait ça parce que j'étais en résidence à Montréal et j'allais à un festival à Toronto où il y avait plein de copains anglophones. Je me dis, ce serait bien que j'ai un petit truc à donner aux copains. Et donc je me suis dit, mais si je commence un truc en anglais, ça va être compliqué, donc je vais le commencer en français. Je me suis dit, mais c'est débile, je vais le faire muet, et comme ça, après, ce sera pour tout le monde, quoi. Et donc j'ai fait ces pages-là, et puis j'avais besoin d'un titre, et j'étais aux États-Unis, enfin j'étais à Montréal, au Canada, et donc j'ai écrit Moose, qui est orignal en anglais, parce que je trouvais ça assez beau, c'est M-O-O-S-E, je trouvais que c'était beau écrit, donc j'ai juste mis ça comme ça, comme titre. Et puis, j'avais mis un numéro 1, donc le désavantage, c'est quand on met numéro 1, on demande un numéro 2. Et donc, je me suis dit, ah merde, il faut que je fasse un numéro 2. J'ai fait une histoire de ce même gamin qui arrivait à l'école, qui se faisait pousser par quelqu'un qui lui dessinait un pénis sur la tête au stif. Et je me suis rendu compte que le gamin n'était pas habillé de la même manière dans les deux numéros, parce que je ne les avais pas regardés. Du coup, je me suis dit, ah zut, est-ce que ça se passe avant, est-ce que ça se passe après? Et donc j'ai avancé et en fait c'est assez loin dans le récit que j'ai réorganisé en me disant ah oui en fait ça se passe après, ça se passe là, ça se passe là et j'ai remis tout par terre et je me dis ok en fait ça c'est mon récit, voilà maintenant comment je le termine quoi. Et,
mais par rapport au nombre par contre de pages, quand tu disais t'as fait le premier numéro de Bâtard et t'as dit vous pouvez vous abonner, il y aura 10 numéros, est-ce que tu te fixes par contre à l'avant justement un nombre de pages approximatif ou ça peut aller à l'infini jusqu'à ce que tu n'aies pas de fin ou
bon, ça ne peut pas aller à l'infini.
Non,
non mais disons que juste pour une question de temps, je pense moi un récit, je dessine quand même assez vite, mais voilà, je pense que quand tu as fait entre 130 et 150 pages d'un même récit, il y a un moment où tu as envie de faire autre chose. Et donc, moi, je ne suis pas capable de faire... Il y a plein d'auteurs qui savent faire des récits de 300 pages et tout ça, 500 pages. Au bout de 150 pages, je me dis, bon, ben, Voilà, c'est bien. Si j'arrive pas à raconter quelque chose en 150 pages, c'est que j'ai raté ma cible, quoi. Il y a un moment, c'est que je dois supprimer des trucs. Donc voilà. Du coup, par exemple, dans Bâtard, j'ai supprimé des pages. Pour la version livre, j'ai supprimé des pages pour que ce soit plus dense, quoi.
Mais est-ce que il y a des retours des gens justement qui s'abonnent ou à qui t'envoient ces fanzines et qui peuvent ou non avoir une influence sur justement la suite de ton déroulé, puisque tu ne l'as pas à l'avance? Ouais. Est-ce que c'est arrivé que des réflexions qu'on puisse te faire, tu fasses te dire « Ah ben ouais, je vais aller là » ou au contraire « Ah ben s'il a vu ça, ça veut dire que c'est trop facile, du coup je vais faire autre chose. » Enfin,
du coup, heureusement, non, pas trop. En fait, c'est l'avantage du fanzine, c'est que je les envoie par la poste. Donc les gens, ils sont hyper contents d'avoir un truc dans leur boîte aux lettres. Et donc, si j'ai des retours, c'est plus je vais recevoir une carte postale, un merci, ce genre de choses. Mais le premier livre que j'ai fait en 2007, c'est un livre que j'avais pré-publié en ligne. Et les gens, c'était la grande époque des blogs et tout ça. Et donc les gens mettaient des commentaires. Donc je postais une page, dès que je finissais une page, je la postais sur le site. Et pareil, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Et les gens mettaient... moi, j'étais personne ne me connaissait, mais il y avait 30, 40 commentaires comme ça. Et donc, tu ne pouvais pas t'empêcher de lire. Moi, je n'avais pas du tout confiance en moi, donc je lisais tout ce qui se mettait. Et j'avais prévu dans ma tête de faire un récit sur un Finlandais qui débarquait à Bruxelles et le faire traverser cette ville et voir qu'est-ce qu'il aimerait pas à Bruxelles. En fait, moi, j'avais vécu en Irlande et j'avais adoré ça. Et je suis retourné à Bruxelles et j'étais hyper déprimé. J'avais pas envie d'être là. Et donc, je me suis dit, je vais faire un récit sur quelqu'un qui a un regard neuf sur la ville et voir qu'est-ce qui va lui plaire dans cette ville et qu'est-ce qui va pas lui plaire. Donc, je mettais tous les trucs qui me plaisaient pas et tout ça. Et il devait, entre autres, visiter des apparts pour trouver un endroit où se loger. Et à un moment, dans les visites d'appart, il visite un appart et il y a une fille. Et tout le monde a tout de suite répondu, genre, ah, la fille. C'était que ça pendant. Et alors, du coup, moi, j'ai commencé à jouer avec ça, évidemment, à faire des. Oui, reviens visiter l'appart, ça prend du temps, il y a des trucs qui se passent. Et puis, il prend la coloc et machin, et tout ça. Et donc, en fait, j'ai fait un récit, je l'ai terminé, j'étais content. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait un récit qui était. C'est une histoire d'amour, c'est pas du tout le bouquin que je voulais faire, juste parce que j'ai joué avec les lecteurs tout du long. Et donc c'était assez rigolo à faire, mais en fait j'ai pas du tout fait le lire que je voulais faire, quoi. Et du coup, après que j'ai fait ça, je me suis dit, ok, c'est terminé, internet, c'est fini pour moi. Je fais mes trucs dans mon coin et voilà, et si je poste des choses, je mets pas de système de commentaires, voilà, je veux pas savoir ce que les gens en pensent. En fait, c'est moi qui crée une histoire, quoi. Je veux pas écrire une histoire pour les autres, je veux écrire une histoire pour moi et espérer que les autres trouvent ça bien, quoi.
Et pour Stigetil, ça a fonctionné de la même façon, justement non, puisque tu l'as proposé en tant que série directement, 2-3 tomes. Est-ce que là, du coup, tu avais quand même un arc narratif déjà plus...
Ouais. Pour Stigetilde, il y a aussi une contrainte de page. Comme c'est des albums plus classiques, des albums 54 planches, donc je suis obligé que mon récit tienne en 54 planches. Donc je ne peux pas partir n'importe comment, je dois quand même un peu préparer la chose. J'ai pris mon... Je suis en train de faire le troisième, donc j'ai pris mon carnet pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Du coup, je dessine tout comme ça. C'est hyper rapide, donc ça me permet de recommencer. Je sais pas si je commence des pages, je les arrête. Je sais pas s'il y a des pages où je mets du typex, je colle des trucs. Je fais des plus petites pages. Alors c'est bizarre, parce qu'il n'y a rien écrit, mais dans ma tête, du coup, je sais voir ok où j'en suis dans l'album. Voilà, donc c'est hyper crado, mais je fais tout le bouquin comme ça. Voilà, j'ai voulu changer des scènes. Donc je fais tout le bouquin comme ça avant de le dessiner, quoi. Et du coup, là, je sais exactement dans mes 54 plans ce qui se passe. Après...
T'as réussi à tout faire tenir, parce que j'imagine que quand il y a une série, on peut se dire au premier ou au deuxième, si on déborde un peu de ce qu'on avait pensé, c'est pas grave, mais au moment du troisième, il faut que ça s'arrête vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet de temps en temps de...
Je sais pas si vous voulez regarder, vous pouvez le passer. Il y a plein de trucs qui tombent, faut faire
attention. On s'est laissé un peu prendre par l'histoire, on a eu envie de raconter des choses. Mince, on en est déjà au 3, en fait. Enfin,
mais du coup, donc l'astuce que j'avais, parce que j'aime bien me contredire, donc comme je voulais faire une série, mais en fait, je voulais pas m'enfermer dans un truc non plus. Dès le début, je me suis dit, donc, cette idée d'île aussi, c'était que je voulais les faire rentrer lentement. Et donc je m'étais dit, ça me permet de faire des albums qui sont la même série, mais où je passe d'une île à l'autre, et donc les ambiances sont différentes. Et donc je peux faire des récits assez différents dans les trois albums. Alors je ne sais pas si j'ai réussi, mais je pense que les trois albums sont hyper différents, quoi. Le troisième encore plus, parce que le troisième, c'est avec une bande de gamins, c'est que des ados. Voilà, c'est vraiment, il y a plus un côté sa majesté des mouches comme ça, plus voilà, c'est plus ce genre d'ambiance là. Ouais. Ouais, et du coup, donc c'était ça. À un moment, je me suis dit, si je fais deux albums et que je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de faire ça toute ma vie, mais en fait, je peux les faire indéfiniment errer sur ce truc, quoi. Donc voilà, il y avait cette idée-là. Et donc, quand je l'ai présenté à Sarbacane, j'avais plus ou moins l'idée du premier. Je savais qu'ils arrivaient sur une île et je ne savais pas ce qui se passait sur l'île. J'avais pas encore le fantôme, je savais qu'ils voulaient qu'il se passe quelque chose. Et puis voilà, après je savais qu'ils voulaient qu'ils changent d'île et que les ambiances soient différentes. Et en faisant le premier, j'ai eu plus ou moins l'idée du deuxième. Je savais que je voulais qu'ils soient connectés. Et le troisième, j'ai pris les deux premiers en me disant, ok, comment est-ce que je peux... maintenant, il faut que, même si c'est une histoire qui est différente, il faut qu'on retrouve tous les éléments et que tout se conclut. Et donc, dans le troisième, on retrouve... Il est hyper différent et à la fois, il y a une espèce de vraie fin finale, quoi. Voilà, du coup, c'est un peu un puzzle, quoi.
Finalement, ça restera sur trois tomes. Tu n'étais pas...
Oui, oui.
Envie de partir sur une autre île. Enfin,
non, mais peut-être que dans... Je sais pas, peut-être dans 5 ans, je voudrais en faire un autre, j'en sais rien. Mais du coup, là, ouais, il y a une vraie fin au récit. Après, c'est le... Je me dis, ce qui serait chouette, c'est d'en faire quelque chose de vraiment différent, quoi, de proposer, je sais pas, à quelqu'un qui écrit, de dire, mais voilà, de faire un roman d'un autre gamin qui fait la même chose, ou de partir du même univers, je sais pas. J'ai l'impression que si je voulais faire quelque chose, j'essaierais de faire un truc différent pour essayer autre chose, quoi.
Mais justement, entre Bâtard et Stigatide, mais aussi les précédents, il y a aussi une différence qui est au-delà du format, qui est aussi les couleurs. C'est-à-dire que Stigatide est en couleur, Bâtard non. Dans les précédents albums aussi, il y en a qui sont en noir et blanc, d'autres en couleur. Pour toi, la couleur, est-ce que c'est un plaisir d'ajouter quelque chose dans la narration, ou c'est purement parce que c'est aussi quelque chose qui est, c'est pour la jeunesse, il y a beaucoup d'éditeurs qui préfèrent aussi que ce soit en couleur parce qu'on dit que c'est plus accessible pour plus de monde. Est-ce que malgré tout, toi, tu trouves un plaisir à faire la couleur, ou est-ce que tu l'as fait parce qu'il faut la faire?
En fait, j'ai commencé à faire de la couleur parce qu'il fallait la faire. Donc moi, j'ai toujours fait du noir et blanc. Donc je n'ai pas arrêté de dire que mon dessin était illimité, donc faire de la couleur, c'est dessiner aussi, donc faire la couleur, c'est difficile, il faut avoir un sens de la couleur, voilà, c'est pas quelque chose de simple. Et aussi parce que je viens du milieu du fanzina, donc de la photocopie, et faire des photocopies couleur, ça coûte hyper cher, donc il n'y a pas de raison que je fasse de la photocopie
c'est pas en couleur, que ça photocopie en noir et blanc.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que maintenant que je parle de photocopie, le fait que je dessine hyper simple, c'est aussi lié à la photocopie, parce que comme je fais beaucoup de photocopies, et que les photocopies, c'est pas toujours... Maintenant, ça va mieux, mais la qualité n'est pas super bien. Du coup, tu ne peux pas mettre trop de détails dans ton dessin, parce que ça part à la photocopieuse, donc il n'y a pas d'intérêt. Enfin bon, tout ça pour dire la couleur, donc je l'ai commencé à le faire par obligation. Et je ne suis pas sûr que je m'amuserais à faire de la couleur sur un récit adulte, si on ne me le demande pas. Mais c'est vrai que maintenant, quand on fait de la jeunesse, les éditeurs, ils ont une impression qui est plus ou moins fondée de dire les enfants, c'est compliqué de lire en noir et blanc. C'est fondé parce qu'il y a historiquement, on lit de la BD cartonnée couleur. Mais en même temps, voilà, il y a le manga qui est le plus gros marché en jeunesse, qui est en noir et blanc et qui est en souple. Mais bon, soit. Mais maintenant, je prends quand même du plaisir à faire ça. Et je pense que je commence à arriver à quelque chose en couleur. Quand je vois les premiers bouquins que j'ai fait en couleur, je me dis, oh là là, quelle catastrophe. Mais voilà, sur Stigatide, je m'amuse bien. Et surtout, en fait, j'ai un copain américain qui fait pas mal de couleurs, qui m'a un peu... c'est un peu lui qui m'a appris à mettre en couleur. Et en fait, je lui envoie les pages, et comme il comprend rien à ce que je raconte, il lit le récit que au dessin et que à la couleur, et donc il dit « Ah, c'est bizarre ce fond jaune tout d'un coup, je comprends pas le récit, mais j'ai l'impression que ça devrait... c'est moins intense que ça ». Et donc il me donne des réactions à l'aveugle sur ce que je fais. Et du coup, c'est entre autres grâce à lui que c'est si harmonieux, quoi.
Là, on a surtout parlé, même si on a évoqué d'autres albums, on a surtout parlé de Bâtard et Stigatine. C'est deux albums pour lesquels tu écris le scénario et tu fais le dessin, mais tu as aussi fait des albums en collaborant avec des personnes, que ce soit justement au scénario, par exemple pour Luigi, pour La Cire Moderne, pour le coup c'est toi qui as fait le dessin. Qu'est-ce que ces différentes collaborations t'apportent en tant qu'auteur complet, ou quels sont les plaisirs s'ils sont différents pris à juste faire un scénario ou juste faire le dessin dans une aventure par rapport à tes albums où tu fais tout?
Mais du coup, la BD, c'est un super métier. Mais c'est comme tous les métiers, quoi. On fait la même chose. C'est quand même un truc où... moi, j'ai l'impression que si j'essaye pas d'autre chose, il y a un moment où tu peux rapidement tourner en rond et t'autociter. Et je crois que c'est pour ça que j'essaie de faire des récits très différents, de faire de l'adulte, de faire de la jeunesse, de faire du polar, j'essaie de varier ce que je fais, mais aussi j'essaie d'apprendre plein de nouvelles choses, et donc collaborer avec d'autres gens, c'est une des manières pour apprendre et pour avancer. Et donc il y a des choses qui se font assez naturellement. Par exemple, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Luigi, qui est sur un photographe, je sais pas si vous avez entendu parler de photographe Luigi, qui est un photographe aux États-Unis à New York dans les années 40, il était branché sur les radios de la police. Et il allait la nuit sur les scènes de crime faire des photos de macabre, quoi. Donc il y a d'accidents de voiture, les alcooliques, les prostituées, tout ce milieu de la nuit. C'est dans le Lower East Side, donc c'est un moment où il y a beaucoup de violence, et il photographie toute cette violence. Et moi, c'est un boulot qui m'a fasciné quand j'ai découvert ça. J'ai découvert son boulot un peu par hasard. Parce que c'est à la fois hyper violent et à la fois c'est hyper tendre, c'est drôle. Voilà, on sent qu'il est hyper proche de tous ces gens qu'il photographie. Et donc j'ai voulu écrire un bouquin sur ce photographe. Et c'est une espèce de... C'est pas vraiment un biopic parce qu'en fait, je prends beaucoup de liberté avec sa vie. Je raconte, c'est un peu ma version du personnage, quoi. Mais je me suis très vite rendu compte que... Avec mon dessin, ce serait complètement inintéressant de raconter cette histoire, parce que le Lower East Side dans les années 40, je ne sais pas si vous avez des images, c'est les cages d'escalier en métal, il y a plein de familles de toutes les nationalités, les gens plein de ventes dans la rue, les gamins jouent dans la rue, tout le monde est tout le temps sur les pas de porte de maison et tout ça. C'est un truc qui est hyper riche, hyper grouillant, c'est sale. Et en fait, mon dessin, vu qu'il est hyper simple et hyper naïf, quand je dessinais cette histoire, ça devenait super pauvre, quoi. Mon dessin, il est... On se projetait juste dans le personnage, mais pas dans la ville, quoi. Alors que la ville, en fait, c'était un personnage de l'histoire. Et donc, j'avais besoin d'un dessinateur. Je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un pour le faire, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai abordé Wouter Manhart, qui fait le dessin, qui est quelqu'un avec qui je suis en atelier, tout simplement. Et qui, lui, a un dessin un peu... entre Sfar et Will Eisner, comme ça, il a une espèce de... Il fait à la fois du gros nez, mais un peu réaliste, avec du hachurage, avec du pinceau. Enfin, il fait un peu de plein de choses. Et ça marchait hyper bien pour le bouquin, quoi. Donc ça s'est fait assez naturellement. Pour La Cire Moderne, c'est un livre, du coup, là où c'est quelqu'un qui fait un scénario qui me... Et c'est Castoman qui est venu me trouver en me disant... on aimerait bien te proposer un scénario, et on m'a déjà proposé beaucoup de scénarios, en fait. Comme je fais des BD avec des ados, on me propose toujours des scénarios de l'histoire d'ados, et donc moi, je leur dis aux gens, mais ça c'est un peu ce que je sais faire, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je dessine un récit comme ça, écrit par quelqu'un d'autre, à moins que ce soit génial et que je me dise, incroyable, je veux absolument faire ce truc. Mais c'était pas le cas, et tout d'un coup, là, en Castaman, ils sont venus vers moi, avec un récit qui est hyper bizarre, parce que ça s'appelle donc La Cire Moderne, et c'est un gars qui... c'est un peu des jeunes losers, ils ont 22, 23 ans, ils louent une maison à la campagne pour pas grand-chose, ils touchent un peu du fric du chômage, ils font rien de leur journée à part fumer des pétards, et il hérite d'un de ses oncles, qui est quelqu'un d'un peu éloigné, qu'il a pas vu depuis longtemps, il hérite d'une fabrique de cierge. Donc la fabrique en tant que soi, le lieu est donné à la paroisse du village pour donner des cours de danse, et lui il doit évacuer tout ce qu'il y a dedans, et donc il y a entre autres un minivan et des stocks de cierges et des stocks et des stocks de cierges. Donc ils se demandent un peu ce qu'ils vont foutre de ça, ils se rendent compte qu'en fait les cierges ça vaut de l'argent, que c'est quelque chose d'assez précieux, Et du coup, ils décident de faire un road trip et de passer par toutes les églises et les chapelles pour essayer de vendre, pour écouler leur stock de cierges pour financer des vacances au Maroc, aller fumer et faire du surf, quoi. Et au fur et à mesure du récit, en fait, il y a un des personnages qui se prend d'une espèce de, il se fait une espèce de crise de foi, quoi. Il, tout d'un coup, il découvre la religion et il tombe complètement là-dedans, quoi. Et donc moi, j'ai lu ce truc et je suis pas baptisé, je suis complètement athée et tout ça. Et donc je trouvais ça assez fascinant, ce récit qui est à la fois hyper moqueur de la religion, mais qui est à la fois un regard très tendre sur la religion. Et, voilà, il y avait un truc que j'avais pas l'impression d'avoir lu avant, quoi. J'ai l'impression qu'en général, les histoires sur la religion catholique, c'est ou un crucifix dans le cul, ou c'est le père Damien, comment il a sauvé tout le monde. Et ça, c'est des récits, c'est ou cucu la praline ou hyper trash, quoi. Et donc là, d'avoir un truc qui était à la fois... on voit bien que le scénariste Vincent Cuvelier, il est à la fois un peu blague là-dessus, mais en même temps... On voit qu'il est hyper touché par ça, il est un peu chrétien et tout ça. Et donc, voilà, je trouvais ça assez chouette. Et donc, j'ai décidé de dessiner ce truc. Et il y avait une raison bis. C'est que quand on me l'a proposé, c'était pile au moment où mon premier enfant était né. Je me disais, je ne vais jamais arriver à dessiner et à écrire quelque chose. Et on m'a proposé un truc super qui marchait bien. Je me suis dit, bon, mais voilà, je vais me concentrer uniquement sur le dessin. Et ça va me faire 9 mois où je vais dessiner. Et ça va me faire du bien.
Et tu continues à lire beaucoup de bandes dessinées, ça aussi c'est quelque chose qui t'enrichit, la bande dessinée, peut-être aussi les romans, le cinéma, mais voilà, t'es aussi attentif à ça, à continuer à te nourrir des œuvres des autres.
Ben ouais, du coup je lis beaucoup de bandes dessinées, et en fait je lis beaucoup de bandes dessinées américaines, je lis beaucoup, en fait moi j'ai habité là-bas pendant un an, et toute la scène américaine indépendante, c'est vraiment quelque chose duquel je me sens super proche, et avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités, donc ouais, je pense que le principal de mes lectures, c'est ça. Je lis beaucoup de fanzines, et après j'essaye, j'ai l'avantage que ma copine est libraire, donc je lis beaucoup de... Je peux lire, elle ramène beaucoup de trucs à la maison, elle a une émission radio aussi, donc je lis beaucoup de choses qui chroniquent à la radio, et, mais voilà, ouais, j'essaye de lire beaucoup de choses. Et en fait, comme je suis éditeur, je dois aussi lire des projets tout le temps, mais évidemment, je lis beaucoup de bandes dessinées. Après, j'ai pas l'impression d'être très influencé par ce que je lis en bande dessinée. Mais bizarrement, j'ai l'impression en la littérature, en ce que je lis. Mais tout à l'heure, je disais, voilà, j'ai lu David Van, j'ai envie de faire un bouquin avec des îles. Le bâtard, il est vraiment. Il y a plein de personnages qui ont des noms de bouquins que j'étais en train de lire. Enfin, tout est. Il y a vraiment plein de choses. J'ai l'impression que ce que je lis, ça se retrouve directement dans mon boulot, quoi.
Et c'est facile d'être. Enfin, j'imagine que c'est un atout quand on est éditeur d'être également auteur, parce qu'il y a des choses qu'on voit auxquelles on est confronté soi-même. Mais est-ce que c'est pas trop difficile de réussir à... Parce que j'imagine qu'on accompagne, qu'on aide aussi des fois l'auteur à trouver des solutions et à se dire, ben voilà, c'est ce qui va marcher pour lui et c'est pas forcément ce qui marche pour moi qui peut être applicable pour lui. C'est quelque chose qui est facile de réussir à conseiller.
Tu veux dire en tant qu'éditeur ou... Oui, c'est bien. Après, je crois que parfois je suis un peu... Je trouve que je suis un peu un dictateur parfois avec certains auteurs, mais non, mais moi je trouve que par exemple les couvertures de bouquins, la fabrication de bouquins, tout ça, je trouve que c'est tout des trucs hyper importants, et donc c'est vrai que je suis hyper hyper pénible avec les auteurs. Il y a des auteurs que je fais recommencer 20 fois, il y a des auteurs, enfin voilà, là on a fait un...
Faire 20 fois dans l'atelier.
Non, mais il y a des auteurs pour qui j'ai redessiné des choses sur la couverture en disant, mais regarde, je l'ai redessiné à ta place, regarde, ça marche comme ça. Donc parfois, je suis un peu, je pense. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, il y a des auteurs qui sont qui ont hyper facile comme ça. Ils font un bouquin, ils font la couverture, tout va dans... Tout marche naturellement comme ça. Puis il y a des auteurs, ils savent faire un livre... génial, mais quand ils doivent faire une couverture, c'est la catastrophe. Ils sont pétrifiés. Le dessin, tout d'un coup, parce que c'est une image seule, pas dans une case, pas avec des dialogues, ça devient un espèce de truc hyper figé, mal foutu. Et donc, il y a des auteurs, j'ai l'impression qu'il faut vraiment leur faire violence. Et moi, ça m'est déjà arrivé, en tant qu'éditeur, de parfois dire, mais on arrête tout, on prend une case de l'album, on l'agrandit, on la retravaille un tout petit peu, mais en fait... tu vas pas y arriver, quoi. Tu te fais du mal, on perd du temps, ça sert à rien, quoi. Donc Ouais. Mais bon, après, je pense, voilà, c'est... Je crois que c'est important quand tu es éditeur d'avoir, d'accompagner les auteurs et de ne pas avoir peur de leur dire ce qui ne va pas, quoi. Et à côté de ça, ça ne veut pas dire que parce que je dis que ça ne va pas, qu'il faut faire comme je veux faire. Ça veut dire qu'il faut trouver une autre solution, quoi. Moi, quand j'ai fait Oringel, je l'ai fait avec Lewis Trondheim, qui était mon éditeur pour ce bouquin-là. Et le bouquin, au début, il faisait 110 pages, quelque chose comme ça. Et Lewis, il m'a dit la fin, ça va pas du tout, ça marche pas ta fin, c'est nul, ça marche pas, on n'y croit pas. Et donc, on a skypé, on a discuté, et puis il m'a dit, mais voilà, moi je pense que la fin, ça doit être ça. Et je suis là, ah non, Lewis, c'est pas possible, quoi, genre, je refuse, quoi. Moi, ma fin, c'est ça que je veux faire. Et donc, je lui ai expliqué ce que je voulais que la fin, dise. Et puis il m'a dit, d'accord, ben voilà, t'es en train de me le dire, mais du coup, dessine-le, parce que ce que t'as dessiné,
ça raconte pas ça.
Ça raconte pas ça, quoi. Il manque 20 pages à ta fin. Si tu me dis ça, il faut que t'enfonces le clou, quoi. Et donc, j'ai rajouté 30 pages au bouquin. Et là, il m'a dit, ok, ben maintenant, c'est bon, on est d'accord. Mais donc, voilà, c'était l'échange. Et en fait, lui, le fait qu'il bloque et qu'il me dise jamais, cette fin, on va jamais la faire, je fais, non, attends, on va la faire, je vais trouver... Mais du coup, je pense que c'est important d'avoir des éditeurs qui font ça. Parce que souvent, il y a des éditeurs qui ont tendance à dire, mais tout roule, tout va bien, fais ton bouquin, ça va. Et puis ton bouquin se casse la gueule, et puis ils disent, ah ouais, mais bon, ta fin, quand même, t'aurais pu la retravailler. Mais t'aurais dû dire ça avant, c'est ton boulot, quoi. Donc, voilà, moi, j'ai pas trop d'ego d'auteur. Donc ça me dérange pas trop qu'on me dise ça va pas et qu'on en discute. Je préfère un éditeur qui va me dire il faut qu'on parle, plutôt qu'un éditeur qui me dit c'est super, fais ton truc. Voilà. Du coup, je suis comme ça en tant qu'éditeur aussi.
Ouais,